Ok, ce soir, demande à prier pour moi, le besoin de prière. On va commencer une nouvelle série d'études sur la révolte d'Absalom. C'est 2 Samuel, c'est un livre quand même qui relate une période de la vie de David qui est quand même assez difficile pour David. Puis tant qu'on lit ça, à un moment donné, c'est pas évident, mais évident. Et je voulais que ça soit clair dans ma tête, et en étant clair dans ma tête, de vous l'enseigner et vous montrer que c'est que Dieu me donne au travers de ça, qu'on puisse bien comprendre que ce qui s'est passé avec Absalom qui est le fils de David, qui va se révolter, qui va devoir détrôner son père. Et ça a amené beaucoup d'amertume, de peine, puis plein de choses. Normalement, si on veut étudier la révolte d'Absalom, ça commence avec le 2 Samuel 13. Lorsqu'on nous parle, c'est la première fois qu'on nous parle d'Absalom comme tel, on vous lit les versets, après ça, on va vous mettre en situation. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar, et Amon, fils de David, l'aimait. Amon était tourmenté jusqu'à Absalom malade, à cause de Tamar, sa sœur, elle était vierge, et il paraissait difficile à Amon de faire sur elle la moindre tentative. La révolte d'Absalom, toute chose d'ailleurs, qui est rébellion vis-à-vis de Dieu, a toujours une racine, c'est le péché qui est la racine de tout ça. Puis pour Absalom ici, il va se passer, il va arriver quelque chose avec sa sœur Tamar, puis ça va l'amener au fur et à mesure à dégénérer, et ça va se résulter avec la révolte d'Absalom. Lorsque j'ai lu ça, j'ai commencé à étudier ce texte-là, mais pour bien comprendre, c'est au point de commencer là, puis donner l'explication de c'est quoi la révolte d'Absalom. Ça pourrait s'arrêter là. Mais lorsque j'ai commencé à étudier ça, à préparer mes affaires, c'est toujours ramené en arrière un peu. Et quand j'ai commencé à lire au verset 1, chapitre 13, après cela, voici ce qui arriva. Mais là, je me suis dit, après cela, après quoi cela? C'est après les événements qu'il y a eu avant. Fait que, au fur et à mesure, je reculais, et ça m'a amené au chapitre 1 de 2 Samuel. Ça veut dire qu'on va faire une rétrospective de la vie de David à partir du moment qu'il était oint un roi. On fait une rétrospective, on va regarder ensemble. On va regarder ensemble qu'est-ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qui va arriver avec Absalom. La première chose qu'il faut regarder, c'est ça. C'est, le titre le dit, c'est le royaume de Saül. Qu'est-ce qui est en violet, en beau, ça dépend de la couleur, comment vous voyez ça. C'est le territoire, c'est le pays d'Israël du temps de Saül. Quand Saül est mort, Saül régnait sur le pays d'Israël, le territoire qu'on voit là. J'ai mis en évidence, j'ai seulement en fait si on regarde avec à partir du nord, aller jusqu'à Dan, et on va descendre, avec mis la ville de Sichem. Du côté de la Méditerranée, Manaïm de l'autre côté du Jourdain, on a Jérusalem qui est là, Hébron, jusqu'à Beersheba. Ça, c'est le royaume de Saül. Lorsque Saül est mort, c'est le royaume sur lequel il régnait. On va aller un petit peu plus loin, parce que, comme je l'ai dit, j'ai mis des choses, je l'ai mis en évidence qu'on voit, mais c'est plus compliqué, c'est plus complexe que ça. Ça, pour qu'elle la mette là, puis qu'elle fasse ça. Hop, là, il vient d'apparaître beaucoup de choses. Là, on va regarder ensemble, c'est la réalité de Saül, par exemple. Si on commence du côté Est, on a les Ammonites qui sont là. Si on descend, ça c'est tous des ennemis à Israël. Ce soit les Ammonites, les Moabites, ici Moab. On descend encore plus bas, on a dans la partie fermée en vert, c'est Édom. Ensuite de ça, on traverse l'autre côté, on a Amalek, on vient de passer de droite, c'est pas grave. On a de ce côté-là les Philistins. Si on monte complètement au nord, on va voir ici, mon montée de plus, on voit en haut Aram, ou les Syriens. Fait que là, on peut voir que le royaume de Saül, qui est encore en haut, pour être dans les dents, là, réunit tous les ennemis qu'il y a autour. Moi, quand je regarde ça, je vois une chose, c'est que Saül, le roi Saül, marchait selon la chair, et si on regarde attentivement, son royaume était vulnérable. Il était vulnérable, pourquoi? Parce que tous les ennemis sont autour, il est encerclé, il est cerné. Si on regarde ça, prenons par exemple, on va juste revenir en arrière avec son royaume à Saül. C'est sûr qu'on regarde le livre de Samuel, on regarde les guerres, on regarde les ennemis qui sont autour, mais faut toujours aller chercher une instruction spirituelle pour nous autres. La Bible a été écrite, l'Ancien Testament a été écrit pour servir d'instruction, et vous pouvez prendre le royaume de Saül, ou le royaume d'Israël, ça peut être chacun d'entre nous en réalité, si on regarde ça. Mais si on va, regardez, on s'en va là, par exemple, le royaume de Saül, c'est l'enfant de Dieu, c'est l'homme intérieur, et ça, d'ici, tout l'ennemi, tout ce qui est autour, c'est l'homme extérieur. On peut le prendre de même, et on peut le prendre de même, on le prend de même, c'est le même que c'est, seulement ça se passe. Quand elle vous dit que le royaume de Saül, Saül marchait selon la chair, et tant que tu marches selon la chair, ben, tu es dans un état de vulnérabilité. Tu es en danger continuellement. Saül est en danger continuellement à cause des ennemis qui l'entouraient. Regardez comment ce qu'il l'entoure. De haut, de tous côtés, par en bas, complètement, il l'entoure complètement. Quand je vois ça, moi, ce que je vois par la voie du semeur. La semence qui est semée parmi les épines. Saül, le royaume est au milieu, mais les épines, les ronces, étouffent la parole de Dieu, étouffent l'enfant de Dieu. Comme pour nous, toutes les choses, les inquiétudes du monde, les convoitises du monde étouffent l'homme de Dieu. Le royaume de Saül est vulnérable dans ce sens-là, et dans l'autre sens, il est vulnérable. On va revenir en arrière, et vous allez comprendre. Regardez bien la carte. Regardez bien le royaume d'Israël. Il y a des anomalies là-dedans. Il y a des choses qui devraient pas être là. C'est ça qui rend le royaume de Saül vulnérable. C'est ça qui peut rendre la vie d'un enfant de Dieu vulnérable à l'adversaire. Regardez bien. On va sortir le pointeur. Regardez ici. Le méandre qui est là. L'ennemi, les Philistins, qui sont du côté de la Méditerranée, ont un accès direct au milieu du pays d'Israël. Regardez comme c'est facile pour l'ennemi d'entrer dans le royaume et d'attaquer Israël au nord ou au sud. C'est une faiblesse du royaume de Saül. Il y en a un autre un peu plus bas, vous l'avez sûrement vu avec celle-là. Regardez ici. Durant le temps de Saül, la ville de Jérusalem n'appartient pas au royaume d'Israël, encore une fois. Ça veut dire que les Philistins qui demeurent ici, plus loin de la côte de la Méditerranée, ont accès directement au milieu d'Israël. La ville de Jérusalem, si vous regardez les pointillés noirs en Jérusalem, Sichem et Hébron et Beersheba, c'est la route principale, la route qu'on a communément appelée la route du massif central, c'est la route principale pour se déplacer entre les villes de Sichem, Jérusalem, Hébron et Beersheba. Ça veut dire que si l'adversaire, les Philistins, entrent à Jérusalem, ils ont accès à toute la partie du nord, ils ont accès à toute la partie du sud, et ils peuvent aller attaquer librement Israël. C'est pour ça qu'on vous dit que le royaume de Saül est vulnérable. Pour nous, aujourd'hui, si on regarde ça, on veut l'appliquer dans nos vies, on peut avoir des méandres, après ça un méandre, ça s'appelle le même aussi d'ailleurs. Parce que c'est un rivière. Parce que c'est un frontière, c'est une autre histoire. Ça y est, pour l'occasion, on envoie le mot méandre. C'est un accès à l'adversaire pour venir nous attaquer. Dans nos vies, chacun d'entre nous, on a des faiblesses. Ces faiblesses-là, l'adversaire va toujours, il n'ira pas au parti à comprendre ce que c'est que t'es au plus fort. Il va aller ce que t'es au plus faible. Où est-ce qu'il y a un méandre? Où est-ce qu'il y a un accès à ta vie? Ça peut être quoi? Remarquez bien ça. Parce que supposons, par exemple, quelqu'un s'appelait une inquiétude de vie. Regardez bien ça. Si ta faiblesse est l'inquiétude de ta vie, qu'est-ce qui va arriver? Il va tout le temps arriver quelque chose que tu t'inquiètes. Tout le temps. C'est là que l'adversaire va frapper. La parole de Dieu dit, veillez. Quand votre adversaire, le diable roule comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Et où est-ce qu'il va passer? Il va passer où est-ce que c'est faible. Il va attaquer par où est-ce que c'est ta faiblesse. Si tes sentiments, sois sûr d'une chose, c'est toujours là que tu vas te faire prendre. Ben oui, ça te fait mal. Ça t'écrase. Ça t'éloigne de Dieu. Ça fait souffrir. C'est là qu'il va attaquer. Ça fait n'importe quoi. Une faiblesse, on le doute. Il s'agit de veiller là-dessus. Ça a eu un royaume qui est d'une part vulnérable à cause de l'accès de l'ennemi au royaume par le méandre de Jérusalem et par le méandre du nord en haut de Sichem et entre Sichem et la mer de Galilée. Il y a deux accès où ce que c'est que l'adversaire peut entrer librement. Autrement dit, il y a une porte ouverte pour que l'ennemi rentre dans le royaume. Ferme la porte. Ferme les portes. C'est ça que j'ai nous demandé. Connais tes faiblesses. Fortifie tes faiblesses. Éloigne l'ennemi. Veille. Quand le lion rugissant, rôde comme le lion rugissant, chef qui dévora. Rôde comme un lion rugissant. Le diable rôde comme un lion rugissant. Ça s'appelle Philistin, que ça s'appelle Ammonite, que ça s'appelle Moabite, que ça s'appelle Édomite, que ça s'appelle Amalécite, c'est tous des ennemis. Que ça s'appelle Syrien, c'est tous des ennemis Israël. On va voir avec David, la différence entre un roi qui marche selon la chair et un roi qui marche selon l'esprit. J'amène tout ça en même temps parce que moi, David c'est un homme, David c'est un grand roi, un très grand roi. Quand on lit les 2 Samuel, il y a une période terne dans sa vie, c'est cette période-là où ce Absalom va se révolter contre lui, Adonijah va se révolter contre lui, Un autre, chez Boss, moi, la tribu de Dan, va se révolter contre lui. Il y a une période creuse dans sa vie, et je ne veux pas m'arrêter et étudier juste ça, puis de terminer, de assombrir la vie de ce roi-là. C'est juste une période dans sa vie. Si on regarde la vie dans son ensemble, c'est un roi qui a servi Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, puis que le roi David était un grand roi, puis Dieu aimait David. La seule chose que Dieu a reproché à David, c'est l'histoire de Bathsheba. C'est compréhensible, puis c'est de l'autre côté, c'est un homme comme n'importe quel homme. Si David avait été parfait, alors donnez quoi? C'est impossible. Le seul qui est vu se faire dans la paix, c'est lui. C'est une figure de Christ, de cet énorme. C'est la seule chose que Dieu lui a approché à la vie. Donc, ok. Et ça va la direction. On va aller un peu plus loin. Les ennemis, on va dire que c'est lui qui va la direction. De toute façon, on peut toujours le dire. Non, ok. Après la mort, on va dire un peu, c'est ça. Après la mort de Saül, David est roi sur Juda. Après que Saül est mort, si on s'appelle, bon, vous voulez, vu du texte, des versets à aller, vu qu'on suit bien. Lorsque Saül est mort, si on se rappelle, oh, c'est pour ça qu'il fallait transmettre. Ok, j'ai fait ça. C'est bon, les points verts. Ok, si on se rappelle, si vous n'en rappelez pas, mais on va le dire, lorsque Saül est mort, à ce moment-là, David était Siglag, le pays des Philistins. En gros, vous vous rappelez, David était à Siglag, les Philistins vont aller attaquer Israël. David veut se joindre aux Philistins pour aller attaquer Israël. Les princes des Philistins ne veulent pas, ils y vont pas. Okay? Il est assez clair, ça veut dire mort. On dit quoi? 2 Samuel 2, verset 1 à 4. David consulta l'Éternel en disant, mon trêve dans une des villes de Juda. Il va demander à Dieu. Pour lui, la route est claire, le chemin est clair, c'est évident. Il est témoin par Samuel, pour être roi, pour remplacer Saül. Saül est mort. Vive le roi. En principe, David est roi, peut régner. Le chemin est libre. Saül est mort. Il peut régner. Il peut régner comme un roi. Mais il va consulter Dieu. Très tard de sa mort. Va laisser agir Dieu. David, généralement, va consulter Dieu. Ça arrive des fois qu'il ne consulte pas, mais il apprend de ses erreurs. C'est même, c'est normal. On fait pareil d'autres. Des fois, quand il y a des gros problèmes, on va consulter Dieu. Puis, parce que c'est un gros problème. Quand c'est un petit problème, on consulte pas Dieu, parce qu'on nous dit que c'est un petit problème, puis là, ça marche pas, fait que là, on réalise qu'on a la responsabilité de Dieu, fait qu'on retourne à Dieu, puis Dieu nous donne une victoire. C'est même que ça marche, puis écoute, on est tous pareils, comme ça, puis David est tellement, puis tous les enfants de Dieu sont comme ça, Dieu nous demande. En toute chose, alors c'est avantageux de consulter Dieu. Pour dans son cas, David consulta l'Éternel en disant, mon frère, dans une des villes de Juda. L'Éternel lui répondit, monte! Il dit, vas-y, mon David, ça compte d'autre. David dit, ouais, mais Juda, en réalité, on va regarder, vous voyez Jérusalem, même Méhan, que je vous ai montré tantôt, la partie au sud, c'est Juda. Fait que, lui, il est assez clair, il veut monter en Juda, il demande, ben, il veut monter. Il veut savoir s'il va monter en Juda, en Israël, et Dieu dit, monte. Juda, c'est quand même assez grand. J'ai pas mis toutes les villes parce que, on verra rien. J'ai mis les villes principales. La ville qui m'intéresse, c'est Hébron. Pourquoi Hébron? Ben, lorsque David dit « Où mon air, l'Éternel répondit à Hébron. » Ça veut dire que David a consulté Dieu, il dit « Mon air, en lui là, Dieu lui dit oui. » Il dit « À quelle place je veux que je monte? » Il dit « Monte à Hébron. » Il a monté à Hébron. Il peut monter tranquillement. Il monte là, mais il va monter là. C'est pas évident, ça marche pas. C'est saccadé. En tout cas, il monte à Hébron. Là, on nous dit quoi? On dit, il est monté à Hébron. David, il montait avec ses deux femmes, Achinoam de Jézrim et Abigail de Carmel, femme de Nabal. On se rappelle l'histoire de Nabal. Nabal, Dieu a tué Nabal. David a pris sa femme, Abigail, puis il y a une première femme qui s'appelle Achinoam de Jézrim. Il est monté avec ses deux femmes, il est monté à Hébron. Et David fit monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent et là éloignaient David au roi sur la maison de Juda. David s'est en allé à Hébron, avec ceux qui étaient avec lui à Siglag, avec ses deux femmes, sont allés s'installer là. Depuis là, les hommes de Juda sont venus au moins David comme roi et le roi. David est roi à Hébron, ce Juda. Gloire à Dieu. On informa David que c'était les gens de Jabès en Galaad qui avaient enterré Saül. Quand David est rentré à Hébron, on a informé David que c'est les gens de Jabès. Jabès, à Galilée, il est en l'air, voyez-vous le préfet. C'est, bon, vous allez comprendre pourquoi que j'amène ça. C'est juste pour Jabès. On a dit au roi David, et on dit à David que c'est les gens de Jabès qui avaient enterré Saül. OK? Vous dites ça? Tant que David a su ça, David, il a apprécié ça. David, malgré c'est David, cet homme-là, est très spirituel. Malgré que Saül a pourchassé les Amalécites qui en voulaient à sa vie, David a toujours respecté Saül parce qu'il était loin d'Éternel. Puis il aimait Saül pareil parce qu'il était loin d'Éternel. Il l'aimait. Puis que, quand il a appris que c'est les gens de Jabès qui avaient enterré Saül, il aimait ça. C'est agréable pour lui. Savez-vous ce qu'il a fait? David, envoyant des messagers aux gens de Jabès en Galaad, il a envoyé des messagers pour leur dire, soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez ainsi montré la bienveillance envers Saül, votre mère, et que vous l'avez enterré. Et maintenant que l'Éternel eut envers vous de bonté et de fidélité. Il a apprécié ça. Il dit, moi aussi, vous ferez du bien. Parce que vous avez agi de la sorte. Que vos mains se fortifient et soyez de vaillants hommes, car votre mère Saül est morte, et c'est moi que la maison de Juda a oint pour roi sur elle. Il envoie des messagers à Jabès pour lui dire que Dieu les bénisse, puis il dit, moi aussi, la même, mon frère, je viens, puis c'est correct que c'est vous avez bien agi, vous avez votre maître Saül. Là, vous ouvrez une parenthèse, parce qu'en même temps, je veux m'arrêter là, je veux venir un peu sur la mort de Saül, et pourquoi que les gens de Jabès ont été chercher le corps de Saül et qu'ils l'ont ramené, qu'ils l'ont enterré à Jabès. Il y a une raison à ça. Quand on regarde dans l'histoire de David et de Saül, on comprend ça. C'est que ça va le ramener lorsque, recule un peu à l'arrière, avant que Saül meure. Quand David était à Siglag, et que les Philistins sont allés attaquer les Israël. Savez-vous où est-ce que c'est qu'ils sont allés attaquer Israël? Regardez bien ça. à la montagne de Gilbert. Regardez où se situe la montagne de Gilbert. Elle est le meilleur des deux coins faibles. C'est Israël. C'est ça que vous disiez dans l'eau. Ils ont été au plus facile, où ils sont mieux positionnés. Les Philistins sont allés là, sont allés attaquer Israël, puis ils ont tué Saül, ses trois fils, Jonathan, Abinadab et Malchishua. Ils ont tué là. Et d'autres d'Israël ont fui. Le roi est mort. Ses trois fils sont morts. On nous dit dans 1 Samuel 31, verset 8 à 13, après que Saül et ses trois fils sont morts, le lendemain, les Philistins vinrent dépouiller les morts et trouvèrent Saül et ses trois fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils coupèrent la tête de Saül et enlevèrent ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins et dans les maisons de Vidal et parmi le peuple. Ils mirent l'arme de Saül dans la maison des Astartés, ils attachèrent son cadavre sur les murs de Bethshan. Là, on voit Bethshan, il est juste en haut de la montagne de Gibea. Si je me tasse un peu, on va juste les autres. Ils ont attaché le corps de Saül sur les murs de Bethshan. C'est ça qu'on nous dit. Lorsque les habitants de Jabès en Galaad apprirent comment les Philistins avaient traité Saül, tous les vaillants hommes se levèrent et après avoir marché toute la nuit, ils arrachèrent les murs de Bethshan, le cadavre de Saül et ceux de ses fils, puis ils revinrent à Jabès où ils les brûlèrent et prirent leurs os et les enterrèrent sous le tamaris à Jabès. Ça, David a apprécié que les grands Jabès aillent, parce que c'est honteux là, que le roi Saül, que son corps soit accroché après les murs de la ville de Bethshan. Les grands Jabès, quand ils ont ça, sont allés le décrocher, ils l'ont emmené en Israël, et ils ont brûlé les corps, ils ont enterré les os au pied du tamaris à Jabès. Ça, pour David, c'était bien important. Et c'est pour ça qu'il a envoyé des messagers pour lui dire que Dieu les bénisse, qu'il apprécie ce qu'il avait fait, puis qu'il était fidèle à lui-même, qu'il avait usé de bienveillance vis-à-vis Saül, et que lui, maintenant, celui qui est roi, et qu'il va prendre soin de l'autre. C'est ça que, qu'il lui dit. Je fais ma parenthèse. Ça, vous avez juste parlé de ça pour dire que c'est apporté avec les grands Jabès. Là, c'est bien beau. Regardez, si on regarde ça comme faux, à première vue, David a envoyé des messagers à Jabès pour leur envoyer le message que vient de vous lire, qui lui a dit de. Que l'Éternel lui l'enverra vous de bonté et fidélité, moi aussi vous ferai du bien, parce que vous avez agi la sorte, que vos mains se fortifient, et soyez de vaillants hommes, car votre mère Saül est morte, et c'est moi que la maison de Juda a loin pour roi sur elle. Amen. Ben, il va faire du capital politique, si on peut parler ainsi, il s'en va sur côté de côté est du Jourdain, puis il lui dit qu'il apprécie ce qu'ils ont fait, c'est maintenant c'est lui qui est roi et qui va lui faire du bien à l'autre. Ça, il n'a pas consulté Dieu pour ça. Mais ça ne marchera pas de la manière qu'il pensait, David. L'homme dit c'est moi, c'est Dieu qui le dit. Ça veut dire mort, oui. Abner, le chef d'armée, le sérieux n'est pas mort. Lui, il n'est pas prêt à ça. Lui, ça ne va pas son bonheur que David est roi. Qu'est-ce qu'il va faire? Cependant, Abner, fils de Ner, chef d'armée de Saül, prit Ish-Boshet, fils de Saül, il a pu passer à Manaïm, Mahanaïm. Et je m'achète, il dit à la ville, wow, à tout ma voiture, à tout ma grand. Le pire je m'achète, il a amené à Manaïm, et qu'est-ce qu'il a fait? Il établit le roi sur Galaad, des Gershuriens, sur le Vizéli, sur l'Ephraïm, sur le Benjamin, sur tout Israël. Autrement dit, tantôt, quand je vais parler de Juda, à partir à Jérusalem, il descend en bas, c'est Juda. C'est lui Juda qui est là. En haut, ben, l'instant, c'est Israël, et Ish-bosheth, fils de Saül, Abner, le chef d'armée du roi Saül, va l'établir roi. Un roi qui est établi par un homme, c'est pas fort, mais ça dérange pareil. Parce que ça va amener des guerres entre l'Israël et Juda, entre les hommes de David et les hommes de Ish-bosheth de Saül. Et en même temps, on voit, même si Saül est mort, vous savez, il sait même dans la vie, moi, quoi, ça se passe demain, ça se passe demain dans la mienne, ça doit se passer dans moi, la même chose. Saül est mort, le problème, il est venu, il est toujours. Ça continue toujours. Tout est traîné à quelque part, puis Ish-bosheth a donné une traînerie, par l'air avec, ça a donné une traînerie. Puis même si Saül est mort, Saül, au travers de son fils Ish-bosheth, va continuer à persécuter David. C'est pas fini encore. Mais à un moment donné, ça va finir, mais ça traîne tout le temps. Ça va traîner quand même un petit bout de temps, cette histoire-là. Il n'y a que la maison de Juda qui est restée attachée à David. On nous dit que la guerre dura longtemps sur la maison de Saül, la maison de David, mais David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait à sa présence. C'est normal. Dieu est avec David. C'est Dieu qui a choisi David. C'est Dieu qui a envoyé David à Hébron. Amenaïm de Gochet, c'est un homme qui l'a envoyé là. C'est une volonté d'homme. Fait que ça peut pas réussir. Mais ça met des bâtons dans les roues. Elle amène des conflits. Elle amène des guerres. Puis c'est ça qui est arrivé. La guerre dura entre la maison de Saül et la maison de David. Mais David devenait de plus en plus fort. David avait vu quoi? Dieu est avec lui. Ish-bosheth, il y avait juste un homme avec lui, il y avait Abner. Aller jusque-là, ça va bien. Abner a établi Ish-bosheth sur Manaïm pour régner sur tout Israël. Mais, il s'est passé une affaire. Puis, tu sais, quand entre hommes, je parle de l'homme, là, pas seulement entre hommes, je parle de l'homme. Entre hommes, à un moment donné, Saül, le roi Saül, le père des Ish-bosheth, il y avait une concubine qui s'appelait Rizpa, fille d'Aja, et Ish-bosheth dit à Abner, il dit, pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père? C'est que Abner est allé vers Rizpa, la concubine de Saül, puis Ish-bosheth, le fils de Saül, il dit, marche, il venait. Il fait un proche. Il dit à Abner, pourquoi faire t'es venu vers la concubine de mon père? Oh, le monsieur, il a pas aimé ça. Abner, je pense. Abner, tu devrais vérifier les paroles des bouchers, et ils vont dire, suis-je une tête de chien qui tient pour Juda? Je fais aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saül. Autrement dit, je continue à prendre soin de la maison de Saül, je t'ai établi roi sur Israël, et la bienveillance envers la maison de Saül de ton père, envers ses frères et ses amis, et je ne t'ai pas livré entre les mains de David. Abner aurait pu livrer Ish-bosheth entre les mains de David, c'est lui qui est roi, il n'a pas fait. Il protège la maison de Saül, il protège Ish-bosheth. Il dit, tu viens me reprocher que j'ai été vers la concubine de ton père? Il attend une minute, oui. Il dit, que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur si je n'agis pas avec David, selon ce que l'Éternel a juré à David en disant qu'il ferait passer la loyauté de la maison de Saül dans la sienne et qu'il établirait le trône de David sur Israël et sur Juda, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Abner, il savait que Dieu avait donné la royauté à David à partir d'Adam aller jusqu'à Beersheba. Mais il a marché selon l'homme et a mis les bâtons dans les roues, il a mis Ishbosheth, roi sur Israël, à Mahanaïm. Tant aussi longtemps que ça m'a fait dans la vie, mais aussitôt qu'Ishbosheth s'est bien construit, il y avait des reproches à propos de la concubine de son père, il dit, chaque bien une affaire, il dit, il va se passer quelque chose, ça ne marquera pas de même, il dit, que Dieu, que l'Éternel, Dieu fait Abner dans toute sa rigueur, s'il n'agit pas avec David, c'est lorsque l'Éternel a puré. Autrement dit, là, il vit qu'il n'y a pas de mort, comme on dit, il va aller voir David à Hébron, qui va s'arranger pour emmener tout Israël avec Juda, puis que le roi règne sur Israël au complet. Abner a envoyé des messagers à David pour lui dire de sa part à qui est le pays. Fais alliance avec moi. Abner a envoyé des messagers à David. Il dit, fais alliance avec moi. Et voici ma main qui est là pour tourner vers toi tout Israël. Abner envoie des messagers à David à Hébron. Il dit, écoute, il dit, fais alliance avec moi. Ils vont m'arranger pour faire venir tout Israël vers toi qui pourra y être. Le chef d'armée, ça, c'est puissant. Très puissant. On nous dit un peu plus loin que Abner, vous voyez le savez, Abner, un entretien qui est l'ancien d'Israël, leur dit, il dit, vous désiriez autrefois d'avoir David pour roi. Établissez-le maintenant quand l'Éternel a dit de lui, c'est par David, mon serviteur, que je délivrerai mon peuple de la main des Philistins et de la main de tous ses ennemis. Pas par la main des Bochettes, par la main de David. Il est au courant de ça. Donc, il sert à tout. Mais il a juste à attendre. Abner parla aussi à Benjamin, on parle de tribu. Il allait rapporter aux oreilles de David à Hébron ce qu'avait résolu Israël et toute la maison de Benjamin. Il arriva auprès de David à Hébron accompagné de 20 hommes. Et David fit un festin à Abner et à tous ceux qui étaient avec lui. Amenez-vous à David, me lèverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon Seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi et se régneront entièrement selon ton désir. David renvoya Abner s'en allant en terre. Il s'en fait l'arranger là-bas, c'est Dieu qui l'arrange. Il y en a un autre là-dedans, ça va pas son affaire, ça fait ce qui se passe. Quand Abner a envoyé des messagers au roi David, Joab, il n'est pas là. Joab, avec son frère Azaël et Abishai, c'est quoi, vaillants guerriers, c'est des hommes de guerre. Quand ils arrivent, tassez-vous. Ils sont puissants. Joab n'était pas là, puis quand il est arrivé, il a entendu parler de ça, qu'Abner était venu à Hébron, puis il avait mangé, il avait festoyé avec David, puis David l'avait laissé aller en paix. Joab dit à David, tu connais Abner, fils d'honneur, c'est que tu t'as trompé, il est venu pour aider tes démarches et pour savoir tout ce que tu fais. Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers, qui a ramené avec lui la cité de Sierra. David n'était pas au courant de ça. Joab a envoyé des hommes à poursuite de Joab, d'Abner, excusez, qui est retourné chez eux, pour le ramener à Hébron. Sans que David soit au courant. Lorsqu'Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme il parlait en secret, et il le frappa au ventre et le soir pour venger la mort d'Azaël, son père. Une petite parenthèse ici. Auparavant, quand il y avait la guerre entre Ishbosheth et David, il y a eu une guerre que Azaël poursuivait Abner pour le tuer, puis Abner ne voulait pas tuer Abner. Il dit, passe toi le dehors, comme toi le rang, arrête de me tuer. Parce que, faut passer par là. Raphaël courait, on courait après, puis il voulait tuer Amnac. Amnac, c'est bien le pauvre qui a tué Raphaël. Voir le côté. Ben, il a bien vendu son frère Raphaël. C'est pour ça qu'il a tué. On nous dit, lorsque le fils de Saül, appelé Amnac, était mort à Hébron, ses amis restèrent sans force et tout Israël était là avec lui. Il bouchait comme un Naïm, là, quand il a appris que Amnac était mort. On nous dit que ses amis restèrent sans force et tout Israël était dans les courants. Parce qu'il n'y a personne. Il bouchait, là, ça veut dire un pion qu'il y avait là. C'est Amnac qui n'a rien. Là, il est mort. On a les courants. Et on nous dit que le temps pendant lequel David est venu à Hébron, c'est la maison de Juda, plus de 7 ans et 6 mois. Après la mort des Jéhoshaphat, David est roi, et oui, roi sur Israël. Et pour terminer, dans 2 Samuel 5, 1 à 3, toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois, déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui amenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu prendras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Éloignez David pour roi sur Israël. Et vive le roi! Vous avez remarqué, David a été loin 3 fois. Il était loin par Samuel, on se rappelle, le prophète Samuel. Il était loin par lui. Il était loin quand il est arrivé à Hébron la première fois avec Saül et mort. Là, il va être loin par tout Israël, il va être roi sur tout Israël. On va arrêter le point. On se reprend là. Pourquoi que David a réussi dans tout ce qu'il sait qu'il vient entreprendre? C'est parce que Dieu t'a vécu. Si t'es ici ce soir, t'es pas sauvé, ben, t'es sans défense, t'es perdu d'avance, t'es condamné, t'es séparé de Dieu. La seule chose qui peut faire que tu puisses avoir Dieu comme roi, c'est de croire que Dieu a envoyé un jour Jésus mourir à toi pour toi, qui est juste, qui est enseveli, resté entre les morts, et si tu fais ça dans ton cœur, que tu confesses la bouche, tu vas être sauvé de vivre un enfant de Dieu. Comme David, comme chacun qui est ici de soi.